grand reportage.
On a entendu qu'on a ouvert les barrières. On a dit qu'on va aller pour tenter nos sens, pour voir. On a marché jusqu'à Tanger, puis de Tanger jusqu'à Castillaro. Après, on a franchi la barrière à pied. Puis on a nagé dans la mer. On dort dans les rues, la forêt. De toute façon, on attend la décision des autorités ici, quoi.
On était dans une cafétéria et on a vu tout le monde courir. On est allé vers la mer pour voir ce qui se passait. Nous aussi, on a couru pour entrer, sans affaire. Mais 60% des gens ont été trompés. Quand ils arrivent ici, ils ne trouvent rien de ce qu'on leur avait dit. Ils traînent un peu dans le coin, puis ils repartent à Castillejos.
Les 17 et 18 mai derniers, des milliers de personnes franchissaient illégalement la frontière entre le Maroc et Ceuta et pénétraient dans l'enclave espagnole. La plupart sont des Marocains, parmi lesquels de très nombreux mineurs non accompagnés. Quelques groupes de migrants originaires d'Afrique subsaharienne passent également. Tous pensent trouver là une porte d'entrée vers le continent européen. Mais c'est la désillusion. La petite ville de Ceuta est le théâtre de la plus grande tension migratoire de son histoire, sur fond de crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Ceuta, le mirage européen, un grand reportage de Magali Lagrange.
Quelques jours après l'arrivée de 8 à 10 000 personnes, selon les chiffres officiels, Ceuta, ville de 19 km², située sur la pointe nord du Maroc face à la côte sud de l'Espagne, est débordée. Les infrastructures ne suffisent pas à accueillir tout le monde. Des groupes de migrants dorment dans la rue. Des habitants de Ceuta se mobilisent pour leur venir en aide.
Cette famille de Gibraltar, regarde tout ce qu'elle a acheté, regarde ça. Viens ici que je t'embrasse. Je vais te montrer ce qu'elle a amené. Des sandales. Elle a amené des sous-vêtements. Regarde un peu tout ce qu'ils ont apporté. Comment je pourrais arrêter alors qu'on reçoit sans cesse de l'aide? Je dois continuer.
Saba Safer, dans la grande maison de 2 étages qui a appartenu à ses parents dans le quartier Los Rosales, sur les hauteurs de Ceuta. Le vaste salon est encombré de paquets. À l'étage, la nourriture est prête. Saba, qui se présente comme simple citoyenne, ouvre sa porte à ceux qui en ont besoin.
On fournit une aide humanitaire aux personnes qui sont ici. Ils n'ont pas pris de douche depuis leur arrivée il y a plusieurs jours, pas fait leur toilette, pas changé de sous-vêtements. Ils n'ont pas de vêtements. Ils errent dans la rue et ils ont faim. Donc je leur propose une douche, des vêtements et à manger. Aujourd'hui, on a préparé un ragoût de viande avec des patates. On leur donne aussi un sandwich, une bouteille d'eau, une brique de lait. Sans mentir, on a commencé avec 200 personnes. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est déjà à près de 400 et on va même dépasser ce chiffre. Il y a de tous les âges. Regarde dehors. Il y en a de 14, 15 ou 16 ans. Certains ont jusqu'à 70 ans.
À l'extérieur, des files se forment devant le portail en fer blanc à l'ombre des arbres. Les hommes qui sont là, de jeunes Marocains, entrent pour se doucher, enfilent les vêtements propres qui leur sont fournis, puis ressortent pour attendre qu'on leur serve à manger. Hamza, peau de bébé et duvet au-dessus de la lèvre, dit avoir 16 ans. Il se fait traduire les questions par un jeune homme un peu plus âgé, auquel il répond brièvement, en arabe, tête baissée.
Le dicen que se vuelve a Marruecos, pero hoy no quiere volver.
A-t-il pu communiquer avec ses parents depuis son arrivée à Ceuta? Il explique qu'il leur a parlé au téléphone. Son père est menuisier, sa mère femme au foyer. Ses parents lui demandent de rentrer, mais il ne veut pas retourner au Maroc parce qu'il dit qu'il n'a rien à faire là-bas. Avant de venir à Ceuta, il allait à l'école, mais il a tout abandonné. Il veut aller en Espagne, seul, pour se construire un avenir, et cela ne lui fait pas peur. Hassan, le jeune homme de 21 ans de la ville marocaine de Tétouan qui traduit les questions, prend la parole à son tour. Il a eu son bac, a commencé des études, mais comme tous les autres jeunes qui frappent à la porte de Saba, il n'a qu'un objectif en tête, l'Europe, pour se construire une vie meilleure.
J'ai été
dans mon quartier.
Des amis m'ont appelé pour me dire qu'on pouvait entrer à Ceuta. Je suis venu, je suis passé à la nage. Des membres de ma famille qui sont en Europe m'envoient un peu d'argent pour m'aider. Avec quelques amis, on loue une petite chambre dans une maison. On paye un loyer entre nous tous. Et maintenant, on attend l'occasion de pouvoir passer en Espagne. Je veux pouvoir aider mes parents, parce qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. En plus, je suis fils unique. Donc pour mes parents, le futur, c'est moi, tu comprends? C'est pour ça. Maintenant, je n'ai qu'une chose en tête, y aller, trouver comment faire. En vérité, même si je dois mourir, ça ne me dérange pas. Je pense seulement à mes parents. Et avec le temps, tout va s'arranger, Inch'Allah.
Difficile de savoir précisément combien de jeunes Marocains se trouvent encore dans les rues de Ceuta, comme Hamza et Hassan, depuis cette vague d'arrivée. Pour entrer dans l'enclave espagnole, tous sont passés par El Tarajal, un poste frontière en bord de mer, avec sa barrière qui s'avance dans l'eau, tout proche d'une plage sur laquelle flânent quelques baigneurs. Ahmed tient un petit kiosque dans lequel il vend des sucreries et des boissons, à quelques pas de là.
Nous sommes à la frontière entre le Maroc et Ceuta. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Des gens qui entraient par la mer, par la barrière aussi, des milliers et des milliers de personnes, des enfants, des mineurs, un bébé de 15 jours avec sa mère opérée récemment, une famille entière, les enfants avec leur père et leur mère. Des milliers de gens sont entrés et tous ces jeunes n'ont pas trouvé d'endroit où dormir, où se laver. Il n'y a pas de travail et ils ne trouveront jamais de travail, ça c'est certain. Ils ne vont pas trouver de travail.
Ces scènes-là, Nabil Rahal les a vues de près, lui aussi, sur cette même plage. Le responsable des pompes funèbres Al-Qader a été appelé quand a été retrouvé le corps d'un jeune homme qui s'est noyé en tentant de rentrer à la nage. Il a passé entre 3 et 4 heures sur place et décrit un sentiment d'impuissance.
C'était des images très fortes. Il faut surtout remercier tous les corps des forces de sécurité pour leur comportement. Ils ont plus agi comme des gens d'ONG. Au moment où j'étais là-bas, devant moi, je les ai vus sauver une demi-douzaine de personnes qui étaient en train de couler. Ça aurait pu être un véritable massacre.
De la route qui mène à la frontière d'El Tarajal, en levant les yeux, on en voit une autre qui monte vers le quartier El Principe. C'est là que se trouve l'un des 3 centres aménagés par les autorités de Ceuta pour accueillir les migrants. Priorité est donnée aux mineurs, qui constituent le groupe le plus vulnérable. Une semaine après la vague d'arrivée, ils étaient près d'un millier dans ces centres et autant dans la rue, selon les estimations de ces mêmes autorités. C'est la délégation du gouvernement de Ceuta qui gère ces centres d'accueil, dont ce grand hangar gardé par les forces de sécurité. À distance, on aperçoit de nombreux jeunes, voire très jeunes, et du personnel de la Croix-Rouge de Ceuta qui s'affaire devant. Isabelle Bracero est responsable de la communication de l'organisation.
Nous leur fournissons une alimentation de base, de l'eau, des vêtements, des couvertures. On répond à tous les besoins qu'une personne peut avoir quand elle est partie de chez elle sans rien. Nous avons l'habitude de gérer des arrivées de migrants, que ce soit en franchissant la barrière ou en bateau. Il y a même parfois de grands groupes, jusqu'à 1000 personnes. Mais nous n'avons jamais vu autant de gens entrer en si peu de temps et par cette zone située sur la plage. C'est une situation sans précédent. Ceux avec qui nous avons pu parler nous disent que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Pour tous les migrants qui arrivent ici, cette fois comme les précédentes, Ceuta n'est pas une destination, mais un lieu de passage. Ils veulent aller en Europe, plus au nord. Leur idée, leur objectif, ce n'est pas de rester ici.
Loin des centres d'accueil, des groupes de migrants sont visibles dans les rues de Ceuta. Certains tiennent des sacs en plastique à la main. Des Marocains passent une partie de la journée près du port commercial où ils espèrent pouvoir monter sur un bateau pour gagner la péninsule espagnole. Sur le trottoir carrelé qui longe la plage de Benitez, Amadou marche avec ses amis, originaires de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Lui est malien. Il a quitté Tombouctou pour la Libye, a tenté la traversée vers l'Europe sans succès, puis est arrivé au Maroc il y a un an et demi. À Ceuta, depuis quelques jours, il aimerait entrer au CETI, un centre d'hébergement temporaire pour migrants.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu les autorités espagnoles. L'orientation, ça manque. Tu vas à l'hôpital, on te dit d'aller au commissariat. Tu vas à CETI, on te demande d'aller on n'a pas les informations exactes pour entrer dans le CETI. On dirait que les autorités ne veulent pas que tout le monde entre. Voilà. On est dans les rues, on dort dans les rues. Il n'y a pas des organisations qui nous donnent à manger à part les habitants. C'est ce que j'ai vu, moi. Ouais, on a l'impression que personne n'est là pour nous. Du côté européen, personne n'est là pour nous. Voilà, on nous a laissés dans la rue comme ça. C'est pourquoi on est en groupe, on est tout le temps en groupe pour éviter les agressions et tout ça. Tu vois. Ce que je voudrais ajouter, on est parti de l'Afrique de chez nous pour chercher la sécurité et du travail. On est venu ici, il n'y a pas de sécurité. La première chose qu'on devrait faire, c'est de nous protéger, de nous montrer les lieux pour qu'on reste tranquille. Mais on nous a laissé comme ça, dormir dans les rues. Vraiment, ça, on n'attendait pas ça ici en Europe. Voilà.
Depuis quelques jours, Amadou et ses amis ont finalement réussi à entrer au CETI et disent attendre la suite. Les autorités locales avouent leurs difficultés à gérer la crise, d'autant que Ceuta est une petite ville de seulement 84 000 habitants aux capacités d'accueil limitées, selon Carlos Rontomé. Dans son bureau du centre-ville, le second vice-président du gouvernement de la ville explique ne pas savoir précisément combien de personnes sont entrées à partir du 17 mai, mais il décrit des profils différents de ceux auxquels Ceuta est habitué.
Lo que tenemos habitualmente son menores que están viviendo en las calles en Marruecos.
Habituellement, nous voyons arriver des mineurs qui vivent dans la rue au Maroc. Mais cette fois, les profils étaient beaucoup plus variés. Nous avons vu entrer des familles entières, des enfants plus jeunes de 11 ou 12 ans, même 9 ans, à qui on a menti en leur disant qu'ils venaient voir du football. Selon certaines informations, ils ont été poussés à passer à Ceuta. Nous avons lancé un processus de rapatriement. Nous avons des accords avec le Maroc pour rapatrier les mineurs, mais c'est une démarche longue et compliquée. Nous espérons que le Maroc mettra en œuvre ce qui est nécessaire de son côté. En général, les Marocains compliquent les rapatriements de mineurs. Depuis de nombreuses années, l'expérience nous a montré que très peu d'entre eux sont finalement rapatriés. Nous finissons par demander de l'aide au reste des communautés autonomes espagnoles pour accueillir ces mineurs ailleurs. Parce que bien sûr, notre ville n'a pas la capacité d'absorber autant d'enfants.
Les ministères marocains de l'Intérieur et des Affaires étrangères affirmaient il y a quelques jours vouloir régler définitivement la question des mineurs marocains non accompagnés qui se trouvent dans certains pays européens et être prêts à collaborer. Ils affirment que les lenteurs constatées sont liées à des blocages dus aux procédures complexes dans ces pays. La ville de Ceuta compte un cimetière musulman, le cimetière Sidi Mbarek, proche de la mosquée du même nom, où les tombes blanches s'étagent sur les pentes. C'est là que sont enterrés les trois jeunes hommes morts pendant cette crise migratoire. Le premier s'est noyé au plus fort des arrivées. Le corps du second a été retrouvé trois jours plus tard sur la plage d'El Talaral. Le dernier a fait une chute au niveau du port. Leurs tombes sont anonymes le temps que leur identité soit officiellement établie. Ce sont les pompes funèbres Al-Qader de Nabil Raal qui ont organisé la cérémonie en présence de deux imams.
La cérémonie suelen ser las personas que usted ha podido ver ahí en el entierro.
Lors des cérémonies, il n'y a souvent que les personnes que vous avez pu voir là lors de l'enterrement. Le personnel des pompes funèbres, les fossoyeurs du cimetière et parfois une ou deux autres personnes qui veulent nous accompagner ce jour-là. Moi, ça fait 7 ans que je fais ce travail et je crois que j'ai déjà tout vu, vu notre situation géographique. Mais jamais tu n'arrives à t'habituer à ces situations. Ça pourrait être ton frère. Ou malheureusement, tu pourrais avoir à vivre cette situation et devoir chercher un avenir meilleur. Je crois que personne n'aime laisser ses parents, ses proches et le pays où il est né, y compris en risquant sa vie. Et on espère que ça n'arrivera plus. Mais malheureusement, je pense que ça ne s'arrêtera pas. Ce sont les projets de personnes qui veulent vivre mieux. Et ces espoirs-là, qui les arrête ?
Dans les rues du centre-ville, l'activité semble désormais normale. Les boutiques des grandes enseignes qui bordent les rues piétonnes sont ouvertes, les terrasses fréquentées. Mais les passants ont encore en tête le chaos du 17 mai. Le lendemain, une partie des commerces sont restés fermés. Seul un quart des élèves sont allés à l'école. Laura, native de Ceuta, profite de cette fin de journée en famille sur la Plaza de los Reyes.
Quand on a vu autant de gens, on a eu un peu peur. On ne savait pas quelles étaient leurs intentions en venant ici. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait de dégâts, mais c'est le fait de voir autant de gens dans la rue et dans ces conditions. Ils sont arrivés à la nage, certains n'avaient pas de t-shirt ou étaient en claquettes. C'est impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'ils sont très jeunes. Nous, on a des enfants, donc on fait la comparaison. Et bien entendu, on ne voudrait pas être à leur place. Mais surtout, au début, on ne le savait pas. Mais quand on s'est aperçu que c'était une tromperie de la part des autorités marocaines, c'est encore plus impressionnant d'utiliser des enfants pour ce genre de choses. Bon, maintenant, les choses se sont plus ou moins normalisées, beaucoup sont repartis, et la tranquillité est revenue à Ceuta.
Cette notion de peur en voyant arriver des milliers de personnes et de tromperie revient dans la bouche de plusieurs passants croisés alors qu'ils marchent dans le centre-ville ou attablés en terrasse. Carlos Rontomé, le second vice-président du gouvernement de la ville, relève lui aussi qu'en plus du drame humain que constitue cette crise migratoire, les implications politiques sont très fortes.
Comme Melilla ou comme Canarias, sont les éléments plus cercanos con respecto a Marruecos.
Comme Melilla ou les Canaries, Ceuta est l'un des endroits les plus proches du Maroc. C'est une frontière. Donc ce sont les endroits où se produisent les conflits, évidemment. Le Maroc revendique la souveraineté sur Ceuta et Melilla depuis les années 60. C'est un autre élément qui influe sur tout ce qui se passe. Ce qu'ils ont fait, c'est d'utiliser les migrants, les citoyens marocains eux-mêmes, pour des questions qui n'ont rien à voir avec le problème réel de l'immigration, mais qui sont liées à d'autres sujets de tension entre l'Espagne et le Maroc, comme le Sahara ou les accords avec l'Union européenne. Disons que la question migratoire est utilisée pour faire pression dans des domaines différents, et au niveau de l'Espagne, nous traversons une crise ouverte assez forte avec le Maroc. Depuis l'indépendance du Maroc, Ceuta vit avec cette pression en sachant que son voisin peut un jour ou l'autre faire un geste hostile. Alors bien sûr, quand ta ville se remplit de Marocains comme ça, avec la passivité des forces armées marocaines, ça te fait très peur. On pensait que la ville était finie. Pas à cause de ces personnes qui vont et viennent, pas à cause de l'immigration, non. On a pensé que c'était une sorte d'invasion silencieuse, comme ça a été le cas à d'autres endroits, par exemple au Sahara espagnol au moment de la Marche verte. Comme les gens de Ceuta vivent avec cette crainte depuis toujours, on a eu vraiment peur.
Retour à El Talajal, par où ces milliers de personnes sont entrées dans l'enclave de Ceuta. De son petit kiosque à quelques mètres du poste frontière, Ahmed voit désormais des migrants faire le chemin en sens inverse pour retourner au Maroc. Une petite file patiente devant le poste frontière.
Il doit y avoir un groupe de 30 ou 40 personnes pour que le Maroc les prenne, les emmène vers l'autobus et ils s'en vont là-bas. C'est ce qu'ils me disent. Hier, des gens ont attendu plus de 5 heures devant la frontière. D'environ 17h à 22h.
Casquette sur la tête, Mohamed, âgé de 45 ans, attend pour sa part depuis plus de 4 heures devant la frontière, dans la chaleur de la fin d'après-midi. Il est arrivé le lundi 17 mai avec ses rêves, mais il a rapidement été rattrapé par la réalité.
La gente aquí esperando para salir. Cada uno tiene su cosa, su sueño.
Les gens ici attendent pour partir. Chacun a en tête ses propres motivations qui le poussent à venir. Chercher du travail, sauver sa vie, sauver sa famille et ses enfants. Les gens risquent leur vie pour avoir quelque chose. Chacun a son rêve. Le mien, c'est d'émigrer en Europe. Il y a un avenir là-bas. Nous n'avons rien. Tu sais, chez nous, il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, les gens n'auraient pas à venir ici. C'est un collègue qui m'a appelé pour me dire que la frontière était ouverte, qu'on pouvait entrer à Ceuta si on voulait. Et voilà, on est arrivé ici, on a vu que les choses n'étaient pas comme on le pensait. La situation est mauvaise ici. On n'a pas eu de chance, on est resté 4 jours, on a cherché du travail. Alors, on est à la frontière pour essayer de sortir d'ici. On retourne au Maroc pour reprendre notre vie.
Le lendemain, de petites files sont encore visibles devant le poste frontière d'El Talajal. Des groupes de migrants se forment pour retourner au Maroc. Les autorités locales de Ceuta affirment que 8000 personnes sont reparties depuis leur arrivée sur le sol de l'enclave espagnole il y a moins de 3 semaines.
Ceuta, le mirage européen. Un grand reportage de Magali Lagrange, réalisation Steven Elsley.